La question du renforcement du soutien à l'Ukraine débattue en ce moment même à l'Assemblée nationale. On va accueillir notre invité politique du soir, François Ruffin, député Picardie debout de la Somme. Bonsoir François Ruffin. Alors que l'on voit ces images en direct à l'Assemblée nationale où les débats sont toujours en cours, le vote n'a pas encore eu lieu. Vous y retournez juste après à l'Assemblée nationale, François Ruffin ?
Tout à fait.
Pour l'Union nationale, on repassera ? Cette proposition de résolution divise les députés, la France insoumise, le RN sont opposés, et vous ?
D'abord, dire que moi je regrette que les négociations se déroulent à 5000 km de là, et que certes on multiplie les résolutions, les condamnations, mais c'est comme si on multipliait les gestes symboliques dans un temps où on ne pèse pas réellement avec notre diplomatie sur le réel. Donc, y a ça,
on va y revenir dans un instant, parce que vous avez eu effectivement des mots très durs sur la place de la France et la place de l'Europe dans ces négociations. Mais sur ce qu'il se joue aujourd'hui à l'Assemblée nationale, vous allez la voter, cette résolution ?
J'y a un volet sur lequel je suis puissamment pour, et un autre sur lequel je suis farouchement contre. Je vous explique. Je pense qu'il est plus nécessaire aujourd'hui que jamais de soutenir l'armée ukrainienne. Pourquoi ? Parce qu'on entre dans les pourparlers et il s'agit que les négociations ne tournent pas à la capitulation, qu'on voit Vladimir Poutine en treillis, en tenue de chef de guerre, qui ne profite pas de ce laps de temps pour opérer une percée sur le front, pour possiblement faire tomber Odessa. On voit qu'il bombarde comme jamais.
Mais là, c'est le cas. La région de Kursk est sur le point de retomber entre les mains russes.
Et donc, il s'agit bien que dans ce temps-là, il y ait de la puissance qui soit opposée à la puissance russe. Donc, sur le volet aide à l'Ukraine, il n'y a aucun doute. Le problème, c'est que, et c'est ce que j'ai dit au rapporteur et au ministre, c'est que on ne peut pas avoir une unanimité là-dessus et la casser sur la suite.
Et c'est quoi la suite ?
La suite, c'est l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, et qui, évidemment, pour moi, est un point aujourd'hui très, très compliqué. Parce qu'on a déjà eu l'expérience d'élargissement européen, qui ne sont toujours pas digérés 20 années plus tard, et qu'aujourd'hui, une entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne sans harmonisation sociale, fiscale et compagnie, eh ben, ça veut dire une agriculture qui est extrêmement en péril. On l'a vu déjà, ne serait-ce que sur l'épisode des poulets, ça n'était qu'une brève parenthèse, mais ça déséquilibrait tout un secteur agricole. Et quand on a un pays de 30 millions d'habitants, enfin, on verra bien combien il en restera.
C'est aussi une demande très forte des Ukrainiens. Ça fait aussi partie de ce qu'on pourrait considérer comme une garantie de sécurité pour protéger les Ukrainiens d'une menace russe.
Je le répète, aujourd'hui, plus que jamais, un appui militaire à l'Ukraine est nécessaire pour leur permettre d'entrer en position de force ou du moins en position de moindre faiblesse possible dans les négociations, mais que si on y ajoute l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, c'est-à-dire là, entrer sur le terrain social, sur le terrain économique, avec ce que ça peut apporter comme déséquilibre.
C'est pas pour demain quand même. Oui, c'est un processus très long. Regardez, pour la Turquie, ça n'a jamais abouti. Pour les Balkans, ça n'est pas terminé. Vous voyez, c'est une idée de leur dire, voilà la bonne direction dans laquelle vous devez aller, en harmonisation sociale.
Mais en harmonisation sociale, vous savez, monsieur Barbier, mais là, vous voyez juste comment, là où il peut y avoir consensus, là où il peut y avoir unanimité, c'est-à-dire aujourd'hui dire nous sommes avec les Ukrainiens parce qu'il ne faut pas céder face à la Russie. On est entraîné sur des débats où non, il ne peut pas y avoir consensus, non, il ne peut pas y avoir unanimité dans le pays, parce que vous me citez la Turquie qui n'est jamais rentrée. Excusez-moi, chacun arrive ici avec son expérience. Moi, j'ai l'expérience d'une région Picardie où les usines n'ont cessé de partir en Slovaquie, en Pologne, en Roumanie, et où ça n'est toujours pas fini. Ce mouvement de délocalisation là. Donc évidemment, se dire qu'on rouvre la même histoire, notre élargissement avec un pays de 30 millions d'habitants, où le salaire, on le rappelle, est 10 fois moins élevé qu'en France, où on a des fermes qui, elles, sont 100 fois plus grandes qu'en France, on peut atteindre des dizaines de milliers d'hectares.
Donc vous ne voterez pas cette proposition de résolution ce soir.
Je m'abstiendrai parce qu'il y a un volet sur lequel je suis. Je pense qu'il faut apporter un soutien évident, et il y a un volet sur lequel on va. Je vous le signale, je vous le dis. possiblement, alors qu'il peut y avoir un consensus dans la population française, vous mettez ça dans la balance, le vote tout à l'heure, il a été 50-50, hein, c'est passé à deux voix près, il me semble. Donc, et je pense que c'est à l'image du pays aujourd'hui. Et je pense que c'est inutile de diviser aujourd'hui le pays sur cette question-là, alors qu'il peut y avoir un consensus pour dire « oui ». Face à la menace russe, il y a un soutien aujourd'hui à court terme à apporter à la population
ukrainienne. Vous avez commencé tout à l'heure à évoquer le rôle de la France et vous avez eu des mots très durs cet après-midi. Vous avez dit à l'Assemblée nationale, nous sommes mis sur la touche. La France est réduite à un rôle de rédacteur, de scribe. Vous ne pensez pas que les manœuvres diplomatiques de ces derniers jours ont contribué au revirement de Washington ?
Écoutez, moi je regarde les faits. On a des négociations qui se déroulent à Jeddah ou à Riyad, en Arabie Saoudite, à 6000 km de Paris, de Bruxelles, en dehors de notre continent, et notre diplomatie est mise au banc. Alors on a réussi à ce que finalement, quand même, les Ukrainiens soient à la table des négociations, mais se dire que pour une guerre qui se déroule en Europe, il n'y a pas la diplomatie européenne autour de la table, c'est un échec.
Mais le fait d'avoir une Europe qui se réveille, qui est prête à s'armer, à constituer sa défense, à renforcer son aide à l'Ukraine, à apporter des garanties de sécurité, est-ce que ça n'a pas donné plus de poids aussi à Volodymyr Zelensky pour s'inviter justement à cette table des négociations et pour peser ?
Oui, je doute vraiment de cette interprétation. Mais voilà, je doute vraiment que ça soit parce que l'Europe a pesé aux côtés de Volodymyr Zelensky que Trump s'est dit, bon, bah, allez, je vais reprendre l'Ukraine avec moi. Je crois plutôt que, avec la brutalité et le cynisme de M. Trump, mais dans un premier temps, il a fait plier l'Ukraine, et une fois que l'Ukraine a plié, il la ramène possiblement à la table des négociations pour ensuite aller tenter de faire plier M. Poutine. Mais maintenant, on est dans cette situation, et il a dit, la balle est dans le camp de la Russie. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que la balle est dans le camp de la Russie, mais est-ce qu'il va réussir à faire plier Vladimir Poutine de la même manière qu'il a fait plier Volodymyr Zelensky ? C'est pas du tout évident. Est-ce que,
Il a changé de ton vis-à-vis de Vladimir Poutine. Ce soir, il se dit prêt à mettre la pression sur le président russe.
Et il le faut. Et le fait qu'il dise qu'à nouveau, il permet des livraisons d'armes à l'Ukraine, que les informations seront partagées avec l'Ukraine, c'est un signe qui se remet dans du poids du côté de la balance pour l'Ukraine et qu'ils cherchent à la rééquilibrer à l'égard de la Russie. Mais malheureusement, je crains que notre rôle là-dedans, il soit périphérique. Ce qui ne veut pas dire que... Et mon souhait, je le dis bien malheureusement, je dis bien à regret, que je regrette qu'on ait finalement mis notre diplomatie à l'écart et qu'elle se retrouve aujourd'hui mise à l'écart de ces négociations-là. Moi, ce que je souhaite, c'est que pour la suite, on ait une Europe et une France qui incarnent davantage de puissance et qui se retrouve pas à être en dehors de l'histoire.
Une remarque et une question. À Yalta, il n'y avait aucun pays de l'Europe continentale. Il y avait les Britanniques dans la foulée de l'Amérique et puis les Russes, on n'existait plus à l'époque. En 89, après la chute du mur, une rencontre sur un bateau de guerre en Méditerranée américano-russe, on était marginalisés. Ça a été un peu tout le temps le cas. C'est vrai que notre poids a diminué. L'Europe arrive à revenir à chaque fois. Et puis une question, dans ce cadre de reconstruction d'une influence française et européenne, est-ce que vous approuvez l'idée que notre dissuasion nucléaire élargisse son parapluie, qu'on discute avec l'Allemagne, avec d'autres partenaires de cette protection qu'on leur garantirait ? Ça, c'est un moyen de revenir.
Alors, d'abord, il y avait quand même le Royaume-Uni. Et puis, les autres pays, ils étaient occupés. Donc, bon...
au 45, moment... ils étaient en partie libérés, mais on était affaiblis. Voilà.
Bon, d'accord. Mais vous voyez bien que, quand même, saluons... On est en train de saluer l'œuvre du général de Gaulle qui a établi notre dissuasion nucléaire. On peut saluer quand même le travail de titan qu'il a effectué pour se repositionner à la table des vainqueurs à cette époque-là.
Parce et ensuite exister entre l'Est et l'Ouest.
Et c'était pas gagné. Bon, donc, là, on a quand même une guerre qui se déroule sur notre continent et notre diplomatie est mise à l'écart. C'est quand même, il faudra quand même en tirer le bilan et se demander qu'est-ce qu'on a raté quand même pour ça.
Quoi. Pour avoir une diplomatie européenne.
Le deuxième point. Vous savez, je pense que là, on est il y a un vrai consensus sur la question de la dissuasion nucléaire, mais et qui est habillé de, à mon sens. Je m'explique. Il y a un accord pour dire que la décision d'appuyer sur le bouton ne se partage pas. Il y a eu des ambiguïtés dans les propos du président de la République au départ. Elles sont levées. Aujourd'hui, il y a une unanimité pour dire ben non, ça appartient à la France et ça appartient au président de la République d'en décider à lui tout seul. C'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a un maintien aussi pour dire que, un, qu'est-ce qui est couvert par la dissuasion nucléaire ? C'est le sanctuaire national, premièrement. Et ensuite, c'est maintenu dans une relative ambiguïté, et c'est cette ambiguïté qui permet la dissuasion.
Les intérêts vitaux.
Donc, en vérité, je pense qu'aujourd'hui, il y a un accord là-dessus. Il y a un accord pour être dans ce qui me paraît plus intéressant. C'est, un, l'industrie de la défense, en termes de quantité de production, ça c'est une question. Mais deux, c'est la solidarité entre les armées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au fond, on a sur le continent européen des armées qui ne sont pas ridicules. Hein. Alors, en équivalence de pouvoir d'achat, les dépenses militaires européennes sont à peu près l'équivalente, un peu supérieure aux dépenses russes, mais on a trois fois plus d'avions que les Russes, on a un peu plus de chars que les Russes, donc on n'est pas ridicule. Mais le problème, c'est que ce sont des armées qui sont mises côte à côte. Aujourd'hui, donc, se pose la question, un, de la solidarité entre les armées, et deux, de ce que les militaires appellent l'interopérabilité. Et donc, je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut aller chercher la construction. Moi, je ne dis pas d'une Europe de la défense, mais au moins d'une défense de l'Europe.
Mais se pose la question aussi du renforcement de notre armée. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, a dit qu'il fallait doubler le budget de notre défense d'ici 2030, donc passer de 50 milliards à 100 milliards. Vous y êtes favorable ?
D'abord, on a augmenté de 50% le budget de nos armées depuis 2017, donc c'est quand même déjà pas rien. Ensuite, moi, sur la question de la menace existentielle, je voudrais qu'on se calme. Oui, je voudrais qu'on se calme.
Quoi, vous dites comme Marine Le Pen qu'Emmanuel Macron joue avec les peurs ?
Non, je dis juste que je veux qu'on se calme, d'accord ? Je considère, à l'inverse de Mme Le Pen, que la Russie est une menace. Parce que c'est une puissance blessée, et elle ne peut être contenue que par une puissance en face. Mais est-ce qu'aujourd'hui la Russie est en état venir jusqu'à Paris? Évidemment pas, mais même à Berlin ou
Il y a une menace numérique, Emmanuel Macron a énuméré un certain nombre de menaces qui sont déjà présentes
mais
sur notre sol,
les cyberattaques,
la manipulation d'opinion.
C'est pas de l'ordre de la menace aussi existentielle qu'une invasion. Donc ça veut dire que cette menace-là, on doit pouvoir d'abord opérer un diagnostic sur cette menace. Qu'est-ce que ça signifie ? Du coup, comment on se couvre ? Est-ce que c'est en multipliant par 3 le nombre de chars ? Ou bien est-ce que c'est en ayant des ingénieurs en cybersécurité ? Et du coup, que derrière, on se dise de quel budget on a besoin pour couvrir cette menace-là ? Et je trouve qu'on prend un peu la chose à l'envers. On se dit, on va augmenter notre budget à tel
Donc
niveau.
Donc vous dites non aux chars, non aux armes, il faut investir
je dis
dans
pas
la cybersécurité.
Moi, je demande un diagnostic. C'est un diagnostic, quand j'étais membre de la commission de la défense, que j'avais déjà demandé, en disant, quels sont les besoins aujourd'hui ? Alors, on a bien identifié dans la guerre en Ukraine que les besoins qui n'étaient pas remplis n'étaient pas forcément des besoins de haute technologie, mais c'était même des choses assez basiques, type des munitions ou des obus. Et ça rappelle la crise Covid, où on n'était pas capable d'avoir des blouses ou du gel hydroalcoolique, c'est-à-dire des produits de base dont on n'était plus capable.
L'Union européenne s'est bougée sur les munitions.
Mais on n'est pas au bout. On voit bien, là, quand on lit que ce qu'a fourni la France à l'Ukraine, c'est l'équivalent de 3 journées de combat en matière d'obus, on a un problème. On peut avoir des outils hyper technologiques, mais si on n'est pas à même de les fournir à G-Continu, donc je demande à ce qu'il y ait un diagnostic, qu'en fonction du diagnostic, on dise quels sont les moyens qu'on a besoin de mettre en face.
Merci François Ruffin. Je vais vous libérer parce que je pense que vous devez aller retourner à l'Assemblée nationale
pour voter.
Tout à fait,
on va aller voter. Merci
d'être venu sur notre plateau
pour
quelques minutes. Et merci également Christophe Barbier.